Hey, avant de commencer le courrier de Randros, sachez que vous pouvez prolonger l'expérience de Shitlist en nous soutenant sur Patreon. En souscrivant en Shitlist Plus à 5 euros par mois, cela vous permet d'accéder à tous les épisodes exclusifs de Shitlist, en plus des épisodes en avance, sans publicité. Lien en description de l'épisode.
Arrivé à la fin du film, j'ai senti un truc et sur ma joue. Je me suis demandé ce que c'était. Et je me suis rendu compte que j'étais en train de pleurer d'admiration devant Lucie.
Je vais te fumer.
Alors, Courrier du Rando, c'est votre moment pour vous exprimer sur le podcast, pour vous exprimer sur le film et aussi toutes les recommandations qu'on peut vous faire. Alors, on va commencer avec l'avis des auditeurs sur ce film. Justement, on va commencer avec Fucking Cinéphile, Blockbuster Malade ou Quand des Terres... Quand en Terre, Sismiec... Burton tente de réactualiser un pilier de la SF et perd son mojo sous le poids d'un cahier des charges sans âme, troquant la réflexion philosophique pour une action incohérente. Non, avoir un bon roman de boule ne fait pas tout. Voilà, ça c'est super jeu de mots, bravo, merci à vous. Duffman nous dit « Oui, dans les bas-fonds, annonce déjà la grande chute d'un auteur de talent pour de la bouillabaisse. Scénario crétin, fin pourri et nullissime, seule lumière dans ce foutoir, l'extraordinaire musique de Danny Elfman. » Et encore, je suis pas trop... La magie de Daniel Elfman, elle me paraît un peu absente. Hein. J'ai pas de thème qui ressort du film.
Elle m'a pas transporté, en tout cas. J'ai pas... Ouais. Ouais, elle m'a pas marqué.
Efficace,
je saurais pas te dire, là.
Mais elle te gêne pas, mais... Limite ouais, générique.
Ça va finir à fonctionnel.
Ouais. Fonctionnel est un bon terme.
Et les prothèses simiesques remarquables de Rick Baker. Marco Pago nous dit « Ce fut mon premier contact avec le cinéma de Burton et ça a au moins eu le mérite de me préparer pour la suite de sa carrière après grosse bouse. Oui, il mérite la shitlist, mais je ne sais pas si la shitlist le mérite.
Ça permet pas.
À chaque jour suffit son film, nous dit « Bah alors, on se fait une petite semaine de vacances, on fait dans la facilité. Ouais, » Effectivement, là, on a décidé de prendre du lourd cette semaine-là. Et encore, on a dit le programme un petit peu dans ce live. Et on va aller dans le courrier des Durandos spécial Zeus de shitlist avec Marie-Clémentine qui lui dit « Des singes, donc ils ne méritent pas la shitlist. À la semaine prochaine pour d'autres critiques. » Merci beaucoup. Et on va passer aux lectures des commentaires des auditeurs. Et on va passer sur le Patreon. Par rapport à l'épisode de Drive, effectivement, on ne sait pas si c'est la fatigue ou, je sais pas, un éclair de génie, mais effectivement, beaucoup de personnes ont apprécié cet épisode. On a Seb Nash qui dit « Je vous suis depuis le début, je pense que cet épisode rentre directement dans mon top 3. » Bon, voilà, en utilisant beaucoup de choses, effectivement, des citations. Pour moi, Nicolas Van Rieffen est un utilisateur de Letterboxd. Le concert de Kavinsky, voilà, tout ce qu'on avait dit. Jerry, de la part de Louis Stitch, et Benoît Gonillier qui nous dit « Ça va mériter un troisième visionnage pour voir si c'est moi qui suis trop premier degré ou si le driver n'est pas présenté sous un très bon jour pour le film. » Effectivement, parce qu'on avait parlé de cette théorie du stalker. Hein, ouais. On avait niqué la caisse de Carey Mulligan pour essayer d'avoir contact avec elle. C'est un truc... Non, Manu, il faut revoir le film dans cet angle-là, tu verras. Il y a un memento à faire.
Une théorie.
Et après... Ouais, non, mais clairement. Et puis, oui, effectivement, le côté Story of Violence et tout ça. En tout cas, merci pour vos commentaires sur le Patreon. N'hésitez pas toujours à nous soutenir et aussi à envoyer des commentaires sur le Patreon. Je reviendrai sur le Patreon à la fin de l'émission. Parce qu'il y a quelque chose d'important qu'on a ajouté en plus dans votre offre Shitlist Plus et Shitlist Prime. Alors, question de
tu
la
veux
semaine.
Dire qu'on a ajouté un truc sans augmenter les tarifs.
Et ouais, c'est fou, hein. Et ça, il y a très peu de sociétés qui feraient ça. On est vraiment sympa. On est vraiment gentil.
On a changé.
Question de la semaine. Le meilleur film de singe, selon vous? Et je vais commencer avec Karim. Karim, qu'est-ce que tu nous proposes pour le meilleur film de singe?
Je vais vous proposer un traumatisme d'enfance. Étant né en 85 et avec une maman jeune, elle avait vu plein de films chelous et étrangement, elle avait envie de partager quand j'étais beaucoup trop jeune. Donc je vais vous parler d'un film sorti en 86, un Max Mon Amour, réalisé par, attendez je vais m'aider, Nagisa Oshima, donc un film français réalisé par un réalisateur japonais, qui décrit, c'est un drame bourgeois où un couple d'un ambassadeur étranger et de sa femme commence à battre de l'aile, monsieur a l'impression que sa femme mène une double vie, engage quelqu'un pour suivre sa femme, catfiche sa femme et se rend compte que son amant est un singe. Alors, le film, c'est pas une blague, c'est vraiment le scénar. Hein. On a une Charlotte Rampling magnifique, à l'apogée de sa beauté de l'époque, qui explique en fait que Max la comprend, Max la respecte, et Max c'est vrai, Max n'est pas mensonge, et Max a un vrai regard et tout ça. Alors, contrairement à tout ce que vous pensez, c'est absolument pas une apologie de la zoophilie. C'est vraiment le drame bourgeois où l'amant, qui est censé être toujours l'image d'un... Une image fantasmée, là, est réduite vraiment au sens primal du terme, et primaire du terme, parce que vraiment, c'est trouver la bestialité, l'honnêteté, la nature, la sincérité, tout ça, à travers l'animal. Et on n'est pas si différent avec les singes, quelque part. On est cousins, hein, voire descendants. Voilà. Alors, honnêtement, c'est un film que j'ai pas revu depuis une éternité. C'est un film qui se veut quand même pas ultra ouf à regarder. Hein, c'est un film qui est quand même mieux à pitcher, mais c'est quand même un film, ils ont eu les couilles de le présenter à Cannes cette année-là. Pour comprendre.
Putain. C'est un film, l'audace.
Un film qui se voit relativement subversif, mais pas trop. C'est quand même assez poli, ça se veut très sage. Le film est super sympa parce qu'il n'y a pas d'animaux maltraités dedans. Alors, c'est à la fois une bonne chose parce que c'est bien de ne pas maltraiter les animaux. Après, c'est une marionnette avec une actrice dedans. C'est un peu cringe. Tu sens le truc, t'as du mal à y croire. Ta suspension consentie de l'incrudité doit être poussée très loin. Et en plus, ces connards, ils l'ont même pas crédité au générique. Donc, voilà. Donc, c'est un film, c'est à déterrer de très très loin. Et voilà, meilleur film de Saint, je sais pas, mais j'ai pas souvent l'occasion dans ma vie de caler ce film-là. Alors, j'ai l'impression que personne ne le connaît.
Et c'est le moment, Karim, putain.
Tu as dit ça hier matin, ou ce matin, dans le groupe, en mode, le meilleur film de singe. Au début, j'ai commencé à me dire, en vrai, est-ce que j'irais pas choper le meilleur de la planète des singes que j'ai préféré? Et là, l'épiphanie. Max, mon amour. Et en plus,
la révélation.
Donc, Max, mon amour, c'est vraiment le titre du film, réellement. Et alors, vraiment, si vous voulez vous régaler, il y a Fabrice Luchini qui doit avoir, je sais pas, 25-30 ans. Je pense qu'il est plein de crack. Il parle, c'est tellement.
Ah, déjà!
Et on a une Victoria Abril, là, ses débuts aussi, qui joue une femme de ménage soubrette avec de l'acné. C'est très dérangeant. Donc, en vrai, chez Clisto, si vous avez la foi, regardez le film. Vous avez le droit de m'insulter si je vous ai invité à regarder un truc vraiment pourri. Donc, Max Mon Amour, sorti en 1986 de Nagisa Oshii.
Max Mon Amour, donc d'une parodie de théâtre de Porte qui claque avec des.
Et ouais, il y a vraiment ça. Voilà. Oui, je ne l'ai pas dit, mais c'est très vaudeville. C'est très, très, très. Oui, c'est vraiment ça.
Oui.
C'est vraiment ça, des portes qui claquent.
Oui, c'est ça. Bah, comment tu l'as pitché, en tout cas, c'est je visualise. Je visualise. Alors après ça, Manu, qu'est-ce que tu veux utiliser pour Bad Karim pour meilleur film de singe? Dis-nous tout.
Je veux refaire l'histoire que je vous ai fait en off du coup, puisque c'est un film, c'est un film en plus qui est un, j'aurais pu en parler quand on a parlé de la planète des singes juste avant. Mais c'est un film qui pour moi n'existait pour personne d'autre que pour ma famille qui possédait la VHS, mais qui peut-être a été vu par d'autres gens. Et qui est un film de 1987. Et quand j'ai demandé à ma sœur, vas-y, tu penses à quoi un film de singe? Et elle m'a dit Project X. Et du coup, Project X de Jonathan Kaplan. Et en fait, il y a un peu un rapport avec Marky Mark au début de La Planète des Singes, puisqu'en fait, c'est l'histoire d'un pilote de l'Air Force qui va être puni et envoyé bosser sur un projet où il doit entraîner des singes sur des simulateurs de vol et où il va rencontrer du coup un singe qui a été vendu par un labo de recherche qui lui avait appris la langue des singes et tout et qui va se retrouver là. Ils vont se lier d'amitié et en fait l'idée c'est que les singes de ce programme au bout d'un moment ils sont tués parce que en fait ils expérimentent pour savoir combien de temps en fait les pilotes pourraient survivre à des attaques nucléaires, ils irradient les singes pour voir combien de temps ils survivent dans des conditions de vol et tout.
Yay!
Donc le singe est condamné. Et du coup, c'est un film plutôt dark où l'idée, ça va être pour Matthew Broderick, qui est le jeune pilote, d'aider les singes et de les libérer, de les aider à se sauver. Et je vous dis pas si ça marche.
Oh putain, il laisse le suspense. Il laisse le suspense. C'est un Project X, du coup, avec Matthew Broderick. Écoutez, c'est des très beaux films de singes. Moi, en fait, je voulais faire un traquenard.
Un Mookie, toi.
Mais j'ai pas eu le temps. Bah ouais, mais en fait, je l'ai pas eu le temps de le voir. On devait regarder ça ce week-end. Mais on est tombé sur un truc et je vous reparlerai ça dans la recommandation. Et on va passer aux recommandations culturelles pour le coup. Et on va commencer avec peut-être. Karim qui voulait faire l'accent marseillais en recommandant quelque chose qui n'a pas du tout envie de prendre l'accent marseillais.
Je vais profiter en fait puisque j'ai la flemme de le faire. Je vais profiter.
Ouais, alors bah, non, c'est une chute, c'est sûr. Tout le monde l'attend donc c'est forcément de la merde.
Ça reviendra à un moment peut-être naturellement. Je vais refaire un kiff là pour parler d'un truc que j'aurais pas pensé parler dans Shitlist, mais à l'occasion des dernières saisons de Bleach qui sont dispo sur Disney+. Ouais. De Thousand Blood, Year War ou l'inverse. Je vais vous parler de Bleach et ma recommandation, ça va être Bleach. Pour ceux qui ne connaissent pas Bleach, promis, j'arrête. C'est gros whip time. C'est fait partie des légendes des années 2000, le fameux Big Three avec Naruto et One Piece. Alors, c'est clairement le moins bien des trois, mais c'est mon préféré. Voilà, jugez-moi très fort. C'est un manga qui est extraordinaire, hein, qui se fait, je crois, en 55, 60 tomes. Donc je vous conseille vraiment d'aller lire. Et c'est un manga qui a en fait surtout un animé qui est un peu cas d'école en fait de ce qu'il faut pas faire quand t'adaptes des grosses licences qui sont stars dans le Jump. Et bah encore une fois, nos amis Studio Pierrot nous sortit un animé en fait qui comporte à peu près 47% de filler et qui a tué l'animé à tel point que ils ont arrêté la production avant que le manga soit terminé. Donc autant vous dire que les aventures de Kurosaki Ichigo, jeune de 15 ans qui devient un Shinigami, c'est-à-dire un dieu de la mort avec des gros sabres, et ça finit en gros baston avec des gros sabres, des transformations de gros sabres et des sabres, et c'est vachement bien les sabres. On a attendu 10 ans avant que, vraiment, parce que ça arrêtait en 2012, à la fin d'un arc de transition, et ça a repris en 2022. Grosse hype, ça méritait le temps, parce que là sur le coup, tout est terminé, donc en fait ils ont décidé de, je crois, séparer la totalité en 4 saisons, donc 4 arcs de la Grande Guerre. C'est vraiment tout ce qu'on attendait, c'est très très proche des dessins, c'est super bien rythmé, l'OST c'est vraiment très très bien, donc ça valait le coup d'attendre 10 piges pour mater ça. Ça fait plaisir de le voir en animé, parce que ça faisait 10 piges que j'avais envie de le voir en animé, parce que ça méritait, parce que Bleach, les gens qui aiment Bleach, c'est pas tellement pour ce que ça raconte, c'est pas très ouf, mais c'est pour ce que ça montre, c'est toujours très très beau, hein. Tite Kubo, c'est vraiment quelqu'un qui illustre très très bien. Puis il a cette vibe très Nirvana, ainsi de suite. Il a un tracé qui lui est très très propre. Ses héros sont magnifiques. Voilà. Donc c'est dispo sur Disney Plus depuis 2022. Là, la dernière partie est finie. Il y a une autre qui devrait arriver. À l'occasion, sur Disney Plus, il y a aussi tous les Bleach. Et en vrai, je vous conseillerais pas de faire Bleach sur Disney Plus. Je vous conseillerais d'aller sur votre ami téléchargement préféré, celui que vous voulez. Il existe des versions Kai qui vous prend tout le truc, qui vous le réduit. Mais vraiment, et là, ça devient super confortable à regarder parce que t'as pas tous les fillers qui viennent te pourrir l'expérience. Donc si vous connaissez pas Bleach, eh ben voilà, c'est un shonen.
Peut-être qu'un jour je passerai les 20 premières pages du tome 1.
En vrai,
bravo. Si t'arrives à le faire, bravo.
Moi je te ferai le oui en disant, écoute, ce qu'il faut faire en fait, c'est que le premier arc, faut l'encaisser et ensuite tu verras, t'arriveras à l'arc de la Soul Society.
Non, mais surtout, j'ai ouvert le bouquin, j'ai commencé à lire et c'était que des personnages qui se criaient dessus pour rien et j'ai fait j'ai trop fatigué pour ça.
Mais arrêtez,
je vous entends pas, je vous lis, mais je vous entends quand
même. J'ai arrêté, tu vois, tu sais, de faire de la propagande et espèce de prosélytisme sur Bleach. J'ai compris que c'était pas possible parce que c'est pas assez quali dans ce que ça propose en scénar. Genre, Ichigo, c'est franchement des héros de shonen qu'on a connus à cette époque-là. Pour moi, c'est le moins intéressant. C'est vraiment un personnage fonction qui est très stylé. Vraiment, il est très très stylé, mais voilà, je sais qu'il y a plein de gens qui imaginent, enfin, qui vont faire plein de trucs sur Ichigo. Non, les gars, en vrai, c'est juste, c'est un héros de shonen, hein, c'est lui qui gagne à la fin. Et en plus, pour ceux qui ont fait le truc, il est tellement pété, il est plus pété que tous les. Scénaristiquement, c'est Jésus. Voilà, je m'arrêterai là-dessus. Bleach,
Jésus.
Bien.
Jésus. Voilà. Encore une fois.
Bleach, c'est Jésus, c'est ça la conclusion.
Ichigo,
voilà, c'est Jésus. C'est pas mal.
Quelque part, c'est
voilà. Bah écoute, merci pour cette roco qui m'a donné envie de sortir mon plus beau Windows Movie Maker et mon titre préféré de Blink 182. Merci.
Oh non, du
Linkin Park. Linkin Park, quoi. In the end, allez, c'est parti. Manu, de ton côté, la recommandation.
Ouais, alors, j'ai passé ma semaine sur Baldur's Gate, du coup. j'ai pas fait grand-chose d'autre.
On connaît.
Je vais pas encore recommander Baldur's Gate, mais. Tous les lundis toutes les deux semaines, j'ai une émission sur Twitch qui s'appelle Le Coin Lecture. Et du coup, j'étais obligé de lire un truc. Et comme dans le lore de Shitlist, il y a un peu d'anti-Alex Garland, j'ai lu du Alex Garland. J'ai lu le coma de Alex Garland qui date de avant qu'il soit connu par nous, la plèbe. Je pense qu'à l'époque, il y a les critiques littéraires et les vrais spécialistes de cinéma de l'époque, puisqu'il commençait déjà à être scénariste pour Danny Boyle. Enfin, depuis un moment, parce qu'il est sorti en 2004. Et du coup, le coma, eh ben, comme Civil War, comme Men, c'est pas subtil. Ça parle d'un mec qui est dans le coma, après s'être fait agresser dans le métro. Et en fait, il va avoir l'impression de sortir du coma, recommencer à vivre sa vie, et en fait se rendre compte que c'est chelou, parce que déjà, il se souvient pas qui il est, il se souvient pas comment il va d'un endroit à un autre, et en fait, peut-être qu'il est encore dans le coma. Et du coup, après, ça se lit très vite, je l'ai lu en un peu moins de 2 heures. Puisque c'est. Oui, je ne l'ai pas dit, mais c'est partiellement illustré en fait par le papa d'Alex Garland. Okay. Et en fait, c'est, je sais pas, une quarantaine de chapitres de 2-3 pages, enfin de bouts de chapitres de 2-3 pages, une cinquantaine peut-être, avec des illustrations, donc ça se lit en 2 heures.
Ça sent le livre moins de 200 pages.
Oui, ça se lit moins de 200 pages largement.
De la vraie littérature. De la vraie littérature.
Et du coup, ça va être beaucoup de cette personne, de comment cette personne vit à l'intérieur de ce rêve forcé et dans lequel elle est semi-consciente, puisqu'elle se rend compte qu'elle est dans un rêve. mais du coup elle vit une réalité vu qu'il est amnésique, il vit une réalité qui est construite que de ce qui l'entoure ou de ce qu'il a ou de ce dont il arrive à se souvenir, et du coup c'est très peu. Et du coup, il se crée cette réalité, mais sans savoir vraiment la cohérence vis-à-vis de la vraie réalité, et s'installe une réflexion sur la vie, la mort, puisque s'il se réveille, du coup, cette vie-là s'arrête et il reprend une autre vie. Je vous spoil pas, encore une fois, de s'il se réveille ou pas, mais très intéressant dans le style, en fait. Alors après, comme je dis, il n'y a pas de subtilité, il n'y a pas de twist, n'allez pas chercher de twist ou autre, hein, c'est vraiment juste un exercice de style. Et du coup, troisième reco, mais lié, c'est que bah, du coup, mon émission du Collecteur, la semaine prochaine, je la ferai au festival L'Ouest Hurlant à Rennes, si jamais vous voulez. Si jamais vous êtes disponible, c'est samedi, dimanche. Moi, j'y serai au moins le dimanche. Et du coup, je serai sur la scène Twitch de 15h à 16h pour un Collecteur.
Alors, du coup, ce sera trop tard si vous n'êtes pas patriote.
Ah bah oui.
pas sur le live, mais au moins, vous avez l'info. Au moins, tu penses que je peux aller à grand. En grand, il y a une centaine de personnes qui seront au courant. Donc, si vous êtes sur Rennes,
s'il y a des Rennais,
allez-y. De toute façon, tu fais le relais sur les réseaux sociaux de ton côté, j'imagine. Merci. Voilà, donc on relayera aussi pour le coin lecture Ouest Hurlant. Voilà, moi, je vais vous expliquer moi pourquoi j'ai pas pu regarder Mookie ce week-end, ce qui m'a absolument désespéré. C'est qu'on a on est tombé à la maison sur une mini-série sur Netflix, une bonne mini-série, peut-être une des meilleures. Si ça se trouve, on ne sait pas. C'est Mon Petit Rennes 2 et avec Richard Gadd. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler parce que ça fait grand bruit cette série. Donc c'est une mini-série de 7 épisodes de 35 minutes et qui parle en fait, qui est basée sur le one-man show en fait de Richard Gadd. Donc il joue son propre rôle. Et en fait, c'est un one-man show qui avait été écrit suite à une expérience de harcèlement qu'il avait vécu avec une femme beaucoup plus âgée et qui l'harcelait par mail, par texto. Absolument ma boule, mais en fait ce qui est assez intéressant, donc il y a cette histoire là d'harcèlement, mais par cet harcèlement, par ce choc là en fait qu'il est en train de vivre, ce trauma, enfin cette expérience douloureuse, il se remet en question sur lui-même. En fait, il se dit pourquoi je moi-même je suis en train de maintenir cette espèce de relation d'harcèlement. Pour le coup, en fait, il y a une espèce de psychanalyse sur son passé, sur comment il vit les choses, quelle est l'expérience traumatique qui l'ont poussé à faire ce genre de conneries, à se comporter en fait de façon presque complaisante en fait avec son harceleuse, quoi. Donc c'est vraiment super bien, c'est super bien écrit, très bien joué, plutôt bien réalisé pour quelque chose de Netflix, parce que généralement il y a quand même une prod, on va dire une patte artistique qui est un peu généralisée sur les prods Netflix. Donc
ça dépend du budget,
modernisme, ça dépend du budget, mais là ça va, je pense que le budget est quand même très très bien amorcé par rapport aux espèces de drames un peu métaphysique, pas métaphysique, mais j'irais être âme personnelle en fait qu'on est en train de regarder en fait à l'écran. Et puis ça la décence entre guillemets de te raconter quelque chose et en le découpant très bien. C'est-à-dire cet épisode 35 minutes, je trouve que c'est un format pour une histoire, une mini-série qui est très bonne en fait. Donc c'est très bien rythmé, tu te fais jamais chier et t'es vraiment porté par le truc parce que le casting est vraiment très bon. On a Navamo, très 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 bonne actrice. Enfin, il y a plein de personnes comme ça où tu te dis waouh, c'est très très bien. Et voilà, donc c'est vraiment quelque chose de vraiment très personnel, quoi. Donc pour le coup, on vit des choses qui sont vraiment assez dures en fait dans cette série. Donc mais en tout cas, c'était vraiment une très bonne surprise pour le coup. Donc c'est Mon Petit Rennes sur Netflix.
C'est copyrighté, copyrighté, copyrighté. Tu peux pas l'écouter parce qu'on l'a pas acheté. C'est copyrighté, 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 copyrighté. Tu peux pas l'écouter parce qu'on l'a pas acheté. C'est copyrighté. Copyrighté, on n'a pas de blé, on a pas de blé. Et tu peux m'en donner, tu peux pas l'écouter parce qu'on l'a pas acheté. C'est copyrighté, 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 copyrighté. Tu peux pas l'écouter parce qu'on l'a pas acheté. C'est copyrighté, copyrighté, copyrighté. 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 Tu peux pas l'écouter parce qu'on l'a pas acheté. C'est copyrighté.